Vous écoutez, on lit pour vous.
Agression dénoncée, mais qui se perpétue. Un texte de José Boileau, paru le 15 mai 2025 dans l'actualité. Les procès spectaculaires pour agression sexuelle se succèdent. Autant d'occasions d'être découragé devant tant d'indécence et d'indignité. Le procès pour trafic sexuel du rappeur Sean Combs, alias Diddy, vient de s'ouvrir aux États-Unis. À nouveau, un homme fait face à des dizaines, voire des centaines de victimes, essentiellement des femmes, pour des gestes commis en toute impunité pendant des années et pour lesquels les justificatifs tiennent par des bouts de ficelle. Combs s'ajoute ainsi au triste cortège qui, du côté américain, comprend le comédien Bill Cosby, le producteur Harvey Weinstein, le spécialiste de la médecine sportive Larry Nassar, l'homme d'affaires Jeffrey Epstein. En France, un procès symbolique s'est aussi conclu cette semaine alors que Gérard Depardieu a été condamné pour avoir agressé deux femmes lors d'un tournage. Il fait appel de cette décision, une première pour lui, mais il est mis en examen pour une autre agression, sans oublier toutes les plaintes de femmes à son encontre qui ont été abandonnées parce que les faits étaient prescrits. En fait, le sordide ne prend jamais de répit, comme on l'a vu ces derniers mois. Ainsi, à l'automne, l'affaire Pellicot a débordé les frontières de la France. Gisèle Pellicot avait beau être une victime très digne, il était choquant de la voir au tribunal devant les 50 hommes qui l'ont violée à l'invitation de son mari, qui l'assommait de sédatifs. Tous coupables, finalement, mais au prix d'un immense traumatisme individuel et collectif. Des hommes ordinaires peuvent donc se rendre jusque-là. Et voilà qu'un autre procès épouvantable hante la France. Il s'agit cette fois d'un ex-chirurgien accusé d'avoir agressé sexuellement 299 enfants dans le cadre de son travail. Tous les détails de cette histoire, dûment notés dans des carnets par l'accusé, sont odieux. Joël Le Squarneck reconnaît les gestes, mais il plaide l'irresponsabilité puisque, selon lui, la pédophilie est une maladie. Joël Le Squarneck n'est pas malade, a rétorqué en début de semaine une psychiatre qui a participé à son évaluation. Car l'affaire est toujours en cours, avec un verdict attendu à la fin du mois. Et certaines victimes apprennent aujourd'hui avec effroi qu'elles ont été agressées en salle d'opération il y a 20 ou 30 ans. Au Canada, nous avons également notre lot de procès qui détaille des agressions sordides contre les femmes. Retenons ces jours-ci celui des 5 joueurs de hockey qui auraient fait de la jeune EM leur jouet sexuel, à moins qu'elle n'ait été consentante, même provocatrice. Ou cet avortement à l'aide de brochettes de barbecue subi par une femme aux mains de son conjoint et d'un complice. Sans oublier ceux de tout jeunes proxénètes qui ont pris au piège des adolescentes de 14 ou 15 ans. Tout cela me donne la nausée. Trop de déshumanisation, trop de perversité. De telles histoires doivent néanmoins être présentées à la face du monde. Il faudrait même faire davantage pour éliminer les opacités du mécanisme des plaintes et de la justice. Par exemple, si le cauchemar vécu par Gisèle Pellicot a eu autant d'écho, c'est qu'elle a tenu à lever le huis clos sur son identité et à ce que le film des agressions qu'elle a subies soit vu pendant les audiences. Ce faisant, elle a permis de rendre concrète une horreur qu'on aurait pu autrement imaginer. De son côté, l'ancien médecin, le Skwarnek, n'en est pas à son premier procès. Mais la légèreté de la première peine et la lenteur du système français à mettre à jour son casier judiciaire ont fait que ses dérives ont été ignorées. Il a donc pu cheminer sans problème dans le secteur hospitalier. « Je suis passé entre les gouttes », comme il s'en est réjoui dans son journal. Nouvelle démonstration que la négligence administrative et le silence attisent les drames. Dans cette veine, il faudrait mettre un terme aux ententes de confidentialité qu'on fait signer à des victimes qui n'ont guère de marge de manœuvre pour refuser de s'y plier. On savait peu de choses de cette tactique, jusqu'à ce qu'éclate l'affaire Weinstein en 2017. Si l'omerta à son endroit avait pu durer pendant des années, c'est parce que le silence des femmes agressées avait été acheté. En novembre dernier, on a appris que ce type d'entente est aussi au cœur du système qu'aurait mis en place le rappeur Didi. Les invités à ces soirées privées devaient signer des engagements à ne rien en dévoiler, et ce, jusqu'à 20 ans après la mort du chanteur. De même, un accord de confidentialité a d'abord protégé les 5 joueurs d'Équipe Canada Junior qui sont présentement en procès. Le procédé n'était pas inusité pour Hockey Canada. En 2022, des enquêtes journalistiques ont révélé que l'organisme disposait d'un fonds pour dédommager des victimes d'agressions sexuelles commises par des joueurs et qu'il avait été utilisé 22 fois. Pire encore, ce fonds était alimenté par les frais d'inscription des jeunes du hockey mineur. Quel détournement pour des causes conçues au départ pour préserver des secrets commerciaux. Elles ont été depuis utilisées dans une foule de milieux, même à l'université, pour des cas impliquant du harcèlement, de l'intimidation, des agressions. Et le silence imposé aux victimes a protégé des agresseurs. Il serait donc d'intérêt général que cela soit interdit ou d'application limitée. Certains pays ont des règles à cet égard, des États américains aussi. Mais au Canada, seule l'île du Prince-Édouard a adopté une loi en 2022 pour encadrer ses ententes de non-divulgation. L'Ontario a fait un pas l'année suivante, mais en restreignant leur utilisation au milieu de l'enseignement. Le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et la Chambre des communes étudiaient de leur côté des projets de loi sur le sujet. Hélas, ceux-ci ont été emportés par les prorogations parlementaires survenues dans la dernière année. Se penchera-t-on à nouveau sur le dossier? Doutons-en, tant l'économie est maintenant la priorité. Je m'en désole, parce que l'on connaît de mieux en mieux les mécanismes à l'œuvre chez les agresseurs. Pour exercer leur pouvoir, ils isolent leur proie, invalident ses perceptions, la réduisent au silence. Il faut donc continuer d'améliorer tout ce qui peut soutenir les victimes, que ce soit en soupçonnant plus rapidement l'assujettissement chimique ou en préservant leur droit à la parole. Mais si je me raccroche autant à la technique, c'est que je suis dépassée par le mépris qui caractérise les causes qui font les manchettes. L'inacceptable saute aux yeux. Cela devrait, en soi, faire travail d'éducation, non? Ce n'est pas le cas. Étant l'empathie que le remords sont rarement au rendez-vous quand les agresseurs sont finalement condamnés. Ils ne sont pourtant pas tous psychopathes. Alors, Où est la faille pour retrouver l'humanité perdue? Cela ne cesse de me troubler. C'était « Agression dénoncée, mais qui se perpétue », un texte de José Boileau, paru le 15 mai 2025, dans l'actualité.
World Pride 2025 de Washington. L'ombre des politiques de Donald Trump plane sur les festivités. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Du 17 mai au 8 juin, la capitale américaine vivra au rythme de la World Pride 2025 Washington, D.C. Conférences sur les droits LGBTQ+, rassemblements, soirées, activités de réseautage et, bien évidemment, la grande marche de clôture du 8 juin prochain rythmeront l'événement. Mais tout n'est pas rose au pays de l'Oncle Sam. L'arrivée à la Maison-Blanche du président républicain Donald Trump a été de mauvais augure pour l'ensemble de la communauté LGBTQ+ américaine ainsi que pour l'organisation de la World Pride à Washington. Normalement, on se serait attendu à des foules de touristes du monde entier venus célébrer. Or, l'administration américaine, par ses multiples attaques contre les droits LGBTQ+, jette une ombre sur cet événement rassembleur et festif. Il a même été suggéré aux personnes trans d'éviter de se rendre aux États-Unis par crainte d'être refoulées à la frontière. Cela devait être une grande fête pour la communauté LGBTQ+ américaine, mais aussi mondiale, d'autant plus qu'en 2025, la ville célèbre le 50e anniversaire des célébrations de la fierté dans la capitale. Un moment doublement historique, donc. L'apothéose de toutes ces festivités devait être, comme on s'en doute, la marche de la World Pride du 8 juin, réunissant des dizaines de milliers de participantes et participants venus des États-Unis et de l'étranger. Des décrets et politiques non inclusifs. Mais voilà que, pas plus tard que le 1er mai, l'administration Trump a rendu public un rapport de 400 pages recommandant une thérapie comportementale plutôt que les thérapies d'affirmation de genre pour les jeunes trans de moins de 19 ans. Autrement dit, l'équivalent d'une thérapie de conversion. Selon LGBTQ Nation, il s'agit d'une nouvelle attaque contre la communauté LGBTQ+ aux États-Unis, à la veille de la tenue de la World Pride. Ce rapport s'ajoute à une série de décrets signés par le président Trump contre les politiques d'équité, diversité et inclusion, EDI, ou encore affirmant qu'il n'existe que deux genres, masculin et féminin. Plusieurs activités prévues au John F. Kennedy Center for the Performing Arts ont été relocalisées. Un concert de l'International Pride Orchestra, une heure du conte animée par une drag queen, et des expositions liées à la fierté, dont plusieurs panneaux de la AIDS Memorial Quilt, entre autres. Pourquoi? Certains groupes avaient déjà déplacé leurs activités vers d'autres lieux après avoir été informés par le Kennedy Center qu'ils ne pourraient honorer les contrats. Le président Trump a abruptement congédié plusieurs membres du conseil d'administration du centre et s'est nommé lui-même président du conseil. Le Kennedy Center devait alors se conformer au décret présidentiel concernant la communauté LGBTQ+. En tant qu'institution culturelle et artistique, le Kennedy Center est un lieu de sécurité pour nos communautés depuis toujours, a déclaré Ryan Buss, directeur général de Capital Pride Alliance, l'un des principaux groupes organisateurs de la World Pride 2025 de Washington, à NBC News. Les actions et les messages de Donald Trump vont à l'encontre de ce que signifie la fierté. Buss a indiqué aux médias qu'il fallait aller de l'avant et continuer à planifier les événements importants de la World Pride, surtout en cette année marquant les 50 ans des célébrations dans la capitale. La World Pride n'est pas annulée du tout. Chaque année, la World Pride est importante, mais cette année constitue un moment historique qu'il faut maintenir afin de s'assurer que notre communauté ne soit pas renvoyée dans le placard, a-t-il commenté. Heureusement, le concert de l'International Pride Orchestra aura bel et bien lieu en banlieue de Washington au centre Strathmore à Bethesda dans le Maryland, tandis que d'autres activités seront présentées au centre névralgique de la World Pride au centre-ville de Washington. Des inquiétudes pour les touristes. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe aux États-Unis, particulièrement en ce qui concerne les personnes trans et non-binaires. Nous avons des contacts avec les organisateurs à Washington. J'ai parlé à Ryan Buss il y a quelques semaines. Je lui ai dit que nous soutenons la World Pride, mais qu'en raison de toutes les problématiques possibles, nous n'irions pas à Washington, que Fierté Montréal ne participera pas. Il comprenait bien sûr notre position. « Nous leur souhaitons le meilleur », a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Et Fierté Montréal n'est pas la seule organisation à renoncer à sa présence dans la capitale états-unienne. Égal Canada et la African Human Rights Coalition ont pris la même décision, invoquant des préoccupations concernant la sécurité de leurs membres. Les boycotts peuvent être un moyen symbolique de protester, mais l'absence crée le silence, écrit Mariano Ruiz dans le Washington Blade. Boycotter cet espace envoie un message non seulement à l'administration Trump, mais aussi à notre propre mouvement, que lorsque les choses vont mal, nous reculons, ajoute-t-il. Ces organisations ont bien sûr des inquiétudes légitimes, mais historiquement, la communauté a toujours su faire face à l'adversité. Stonewall, en 1969, la marche sur Washington, en 1979, sans oublier les nombreuses manifestations au plus fort de l'épidémie de sida. On a aussi protesté contre les lois anti-propagande gay de la Russie. Mariano Ruiz, d'origine argentine, souligne d'ailleurs que la prochaine World Pride se tiendra en 2027 à Buenos Aires, en Argentine, un pays gouverné par le président Javier Milei, dont le gouvernement est considéré comme anti-droit. « Nous ne devons pas abandonner nos plateformes mondiales au gouvernement qui cherche à nous effacer », insiste-t-il. Pourquoi une telle prudence? Parce qu'à quelques semaines de l'événement, les responsables envisageaient de recommander aux personnes trans de l'extérieur des États-Unis de ne pas voyager ou de le faire à leurs risques et périls. En vertu des exigences sexuelles des États-Unis, le passeport doit refléter le genre assigné à la naissance. Et les personnes avec un passeport indiquant un marqueur X peuvent s'attendre à être interrogées de manière plus intensive, voire leur entrée être refusée. Il est possible que nous demandions aux personnes trans de ne pas venir, ou si elles viennent, de le faire à leur propre risque, avait indiqué Ryan Buss. C'est vraiment dommage de devoir envisager un tel avis, alors que l'intention d'un événement comme celui-ci est d'offrir un safe space international permettant à tout le monde de se rassembler. Cela brise le cœur, a déclaré Jessica Fitzwater, présidente du conseil du comté de Frederick au Maryland, près de Washington, D.C., à NBC News. Les organisateurs affirment qu'ils feront tout en leur pouvoir pour assurer le bien-être et la sécurité de toutes et tous durant ces festivités, en portant une attention particulière aux besoins des personnes trans et non-binaires. En tout, les organisateurs estiment ou espèrent accueillir pas moins de 2 millions de personnes pour la World Pride 2025, Washington, D.C. C'était World Pride 2025 de Washington. L'ombre des politiques de Donald Trump plane sur les festivités. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Enfanté? Moi? Une chronique de Sophie de Côtepont, paru le 28 avril 2025 dans Ombre et lumière. Choisir de donner la vie ou non lorsque l'on souffre de troubles psychiques graves est une question complexe. Je ne me hasarderai pas à porter de jugement sur telle ou telle décision ou à donner un avis militant sur le sujet. J'estime que c'est une question éminemment personnelle. Depuis l'âge de 24 ans, je souffre d'un trouble bipolaire de type 1. J'ai passé de longues années de ma vie dans la souffrance intérieure et je n'ai plus 20 ans. Je ne sais pas exactement comment tout se conjugue, mais le fait est que j'ai longtemps eu un blocage intérieur vis-à-vis de l'idée même de la maternité. Certes, en étant célibataire, la question ne se posait pas concrètement, mais je sentais bien qu'une dimension de mon être était en berne. J'ai en effet longtemps été pétrifié à l'idée d'être responsable d'un être jusqu'à la fin de ma vie. J'avais peur de n'être pas une maman équilibrée, une mère comme tout le monde, une mère suffisamment bonne, comme on dit. Je ne voyais que le côté meurtri de mon passé dans la maladie. Je ne voyais que les histoires tragiques racontées dans les livres à propos de la difficulté pour un enfant de grandir et s'épanouir dans une famille où l'un des parents est bipolaire. Pourtant, j'ai rencontré par la suite bien des exemples contraires de parents ayant un trouble bipolaire qui ont fondé une famille heureuse. Cette quasi-impossibilité à envisager la maternité. Mon désintérêt même pour les bébés m'attristait. Alors j'ai décidé d'agir. Pas forcément pour changer d'avis, mais parce que j'avais l'idée qu'un déclic pouvait se produire et qu'il était important dans ma construction personnelle. Pour cela, j'ai entrepris une thérapie avec une professionnelle. J'ai également prié pour un changement profond. J'ai pu évoquer en thérapie toutes mes représentations, tous mes freins, mes blessures liées à cette histoire, toutes mes peurs paralysantes. La phrase d'un médecin de famille m'est revenue en mémoire. Derrière chaque peur, il y a un grand désir. Jour après jour, j'apprends à déterrer ce grand désir, et grâce après grâce, l'ouverture à la vie fait son chemin dans mon cœur. Vous me direz, ça tombe bien et cela prend tout son sens, car aujourd'hui, je me prépare au mariage avec un homme qui connaît mon passé et toutes mes peurs, et m'accepte tel que je suis. Je me réconcilie profondément avec la dimension maternelle que toutes les femmes portent en elles, même si elles n'enfantent pas. Pour moi, c'est le plus important. C'était « Enfanter, moi », une chronique de Sophie de Côtepont, parue le 28 avril 2025 dans Ombre et lumière.
Certains produits importés du Mexique par le Canada auront-ils des tarifs? Un texte d'Alex Fontaine paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir. Si le Canada décide d'importer des produits directement du Mexique, mais que ces produits doivent traverser les États-Unis, seront-ils sujets à des tarifs douaniers? Demande Michel Sirois, un lecteur. L'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis sur un large éventail de produits étrangers a provoqué de nombreux appels à la diversification des marchés. La question de notre lecteur est donc très pertinente. Si on voulait remplacer des produits américains par des produits mexicains, mais que ces derniers devraient tout de même passer par les États-Unis, que se passerait-il avec les tarifs douaniers? Rien, répond d'emblée Harry Van H., professeur au département d'affaires internationales de HEC Montréal. Il y a ce qu'on appelle les transshipment duties ou droits de transbordement, explique-t-il. Lorsqu'un produit traverse un pays pour se rendre directement dans un autre, il n'y a pas de tarif qui s'applique dans le pays de transit. il y a beaucoup de produits consommés au Québec qui entrent en Amérique du Nord par New York ou ailleurs et qui ensuite sont mis dans des camions pour aller au Québec. Ces produits n'auront pas de tarifs douaniers américains, poursuit le professeur Van Hache. C'est seulement au Canada qu'ils seraient assujettis à des droits de douane, le cas échéant. Aux Américains de vérifier. Cela dit, si un produit passe du Mexique aux États-Unis et qu'il est légèrement modifié chez nos voisins, il serait jugé consommé aux États-Unis, puisque ça ne serait pas considéré comme un transbordement. Dans ce cas, il y aurait des tarifs douaniers, confirme l'expert. Il incombe ensuite aux autorités américaines de procéder à des vérifications pour s'assurer qu'un produit ne fait que transiter par les États-Unis, explique celui qui est aussi co-directeur de l'Institut international de diplomatie économique. La documentation joue un rôle important. Évidemment, il n'est pas exclu que des entreprises puissent contourner les contrôles, mais la pénalité de faire des erreurs comme ça est énorme. Donc, ça n'arrive pas souvent, précise M. Van Hache. Pour faciliter la surveillance, les biens destinés au transbordement sont souvent traités dans un secteur à part des sites de transit, comme les ports, ajoute-t-il, et on s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Voir au-delà du prix. Dès qu'il y a un tarif douanier, c'est une taxe qui augmente le coût des choses qui proviennent des États-Unis, résume le professeur. Mais il n'y a pas que le prix à considérer. Les consommateurs canadiens choisissent aussi leurs produits d'importation en fonction de la qualité. Pour cette raison, on évoque que les tarifs sont toujours très coûteux, car on doit soit acheter un produit plus cher, soit le remplacer par un équivalent de moins bonne qualité. Dans les deux cas, il y a une diminution du bien-être des consommateurs. Nous sommes toujours très contents quand les produits du Québec arrivent en magasin, rappelle-t-il. Nous savons bien que pour les produits agricoles, il y a une différence de qualité entre ce qui est cultivé au Québec et ce qui est importé en fonction d'où proviennent les produits. Et faut-il répliquer aux tarifs américains? C'est difficile politiquement de ne pas le faire avec des contre-tarifs, selon M. Van Hache. Généralement, les tarifs douaniers font plus mal à soi-même qu'aux autres, parce que tu es en train de mettre une taxe sur les produits qui nuit aux consommateurs. Cela dit, des contre-tarifs seraient utiles pour mettre de la pression sur les États-Unis afin qu'ils enlèvent leurs propres tarifs douaniers. C'était « Certains produits importés du Mexique par le Canada auront-ils des tarifs? » Un texte d'Alex Fontaine paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir.